Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes en retard, il n'y a pas d'autre mot pour qualifier.
Nous sommes surtout le lundi 1er mai.
Oui, non mais avant on est en retard, parce que les gens ont dû attendre Culture en Placard depuis un quart d'heure à peu près. Ils se disent mais qu'est-ce qui se passe, ils ne sont pas là, et s'ils sont là, ils sont simplement
c'est
en retard.
C'est la faute à Étienne, il n'y a qu'à faire sa cuisine avant.
Voilà, c'est la faute à Étienne, Étienne n'est pas là, il est parti se faire flageoler.
Les absents ont toujours tort, donc ouais. On balance sur Étienne, c'est normal.
Non mais c'est vrai, c'est la faute à Étienne. Alors, nous sommes le 1er mai, tu fais bien de le souligner, Clément. Et voilà, il n'y a rien d'autre à dire.
Non, si, camarades de tous les pays, unissez-vous. Étienne n'est pas là, donc je ne vais pas entamer l'international, parce que tout seul, on a quand même l'air d'un gland.
Rebellez-vous. Vous aussi, dites non aux lasagnes géantes.
Non.
Pas de private joke.
Non, c'est sûr que je pense que tout le monde est capable de comprendre le concept de la lasagne géante. Ça ne sert à rien, ça n'existe
dépend.
Pas.
Non, mais si, ça peut exister une lasagne géante. Imagine en Italie, il y a deux pizzas Lolio qui lancent un concours, celui qui fait la plus grosse lasagne. Voilà, t'as une lasagne géante quoi. Donc non, là, les gens ils peuvent
donc
pas
toi
comprendre.
Toi aussi, rebelle-toi contre les pizzas italiens qui veulent faire des lasagnes géantes.
Voilà.
Alors, Joseph, ouais, ma voix est bizarre, c'est pas grave, on va dire que c'est la fatigue, un truc comme ça.
Tu plaindras ta mère, hein, qu'est-ce que tu veux.
Ouais. Alors, je vous avais prévu une surprise la semaine dernière. C'est vrai ou pas?
Et en fait, il l'a oublié.
Absolument pas, je l'ai faite, la surprise, j'ai demandé une voix off de commenter ce que je fais.
Alors, il enlève son casque, il enlève son t-shirt, oh mon dieu, il enlève son pull. Et nous avons un t-shirt de Culture en Placard. Culture en Placard, tous les lundis 20h, toi aussi, paye ton t-shirt.
Non, alors, si vous voulez, alors, bon, hors émission, donc ceci est une parenthèse, mais okay. Les gens peuvent pas voir que je fais des signes de parenthèse, mais j'en fais. On peut tout à fait faire des t-shirts le côté un petit peu plus classe, au sens des trucs qui seraient sérigraphiés bien et tout.
Oui, mais alors moi j'avais
si
pas
on prend un peu avant.
Ouais, moi j'avais pas d'argent, donc j'ai fait ça avec mes petites mimines.
Donc il s'est fait son t-shirt.
Je me suis fait mon t-shirt.
Avec le beau fond d'écran que vous pouvez trouver sur le blog des Cultures Home Placard.
Et comme j'avais du rap, vous avez également vos transferts pour vos t-shirts et vous avez les dessins que j'ai faits en cadeau pour vous.
Hein,
toi aussi, fais-toi des cadeaux à la radio.
C'est à peu près ça, parce que les auditeurs appellent pour gagner des trucs et vous n'avez jamais rien et je me sentais triste. Façon de parler.
Mais moi je suis super contente parce que j'ai un joli dessin.
Et moi je suis super content pour l'aubergine géante qui lit un livre.
Oui, tu es l'aubergine cosmique. Clément est devenu le Spartan câblé, Caroline est la touche féminine mais barrée, et Clément et Étienne est le chevalier au poney. On ne peut pas commencer une mission de Culture en Placard sans
La citation du jour.
La marche des vertueux est semée d'obstacles qui sont les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'œuvre du manin. Béni soit-il l'homme de bonne volonté qui au nom de la charité se fait le berger des faibles qu'il guide dans la vallée d'ombre de la mort et des larmes car il est le gardien de son frère et la providence des enfants égarés. J'abattrai alors d'un bas terrible, d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante sur les hordes des impies qui pourchassent et réduisent à néant les brebis de Dieu et tu connaîtras pourquoi mon nom est éternel quand s'abattra sur toi la vengeance du Tout-Puissant. Le chauve grognon. Voilà, c'était censé introduire une émission qui aurait dû commencer à 8h, consacrée aux anges et démons, thématique que nous avons choisie à partir d'un livre qui s'appelle « De bons présages » de Terry Pratchett et Neil Gaiman. C'est la thématique à venir, à savoir la présentation des deux auteurs du livre, la présentation du livre, et une déclinaison en BD, en musique et en jeu vidéo, si je ne m'abuse, d'un thème bien, les anges et les démons.
Un thème Fred, un thème un petit peu alternatif après Bernard Lavillier hier.
Oh, tu y étais même pas.
Oui, alors c'est-à-dire que moi personnellement, Meugelet, j'ai une certaine aversion. Meugelet pour écouter une musique que je qualifierais de musique d'ascenseur un petit peu,
Olivier,
encore moins.
Olivier, toi qui y étais, critique cette critique gratuite et facile.
Moi je me suis bien amusé.
Merci Olivier.
Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Musique.
Commence à chanter.
Alors, je vous ai retrouvé une musique que je cherchais depuis un petit moment, qui est passée en générique d'un clip sur une chaîne vidéo, la seule qui existe et la plus pourrie qui existe, à savoir Game One. Et la musique s'appelle Ma, du titre Not So High, et ça se retrouve sur le net plus ou moins facilement. Je crois que c'est matironline.fr.st, un truc dans le genre. Enfin, Google est ton ami. Tu es prêt, Clément? Voilà, Ma avec Not So High. On enchaîne tout de suite après avec la présentation des deux auteurs du livre De Bons Présages. À suivre sur Culture en Placard, Graphite 94.9.
Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant, connard ?
Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux.
Culture en Placard, tous les lundis 20h sur Graphite.
C'était donc Ma avec Not So High. Alors, je n'ai pas de musique de fond. Pas encore.
En même temps, on n'a pas besoin, on peut très bien faire le fond nous-mêmes.
Non mais arrêtez. Ne m'embêtez pas. Qu'est-ce que c'est que...
C'est de la musique relaxante, un peu classique, mais très, très angélique, on va dire. Très angélique.
Je suis en train de changer le
micro. Donc je parle près du micro, et pendant que les gens s'en foutent complètement des deux côtés du micro, j'appelle à l'aide. Au secours.
Je suis là.
Merci. Je t'écoute.
Alors, la thématique de ce soir, je le rappelle, est... Ange et démon, personne ne suit. Et ce qui a valorisé ce choix de cette thématique, c'est le livre De Bons Présages de Terry Pratchett, qui met en œuvre des anges et des démons.
Et de Neil Gaiman.
Et un chien.
Oh,
il l'a pas écrit, il est dans le livre.
Et un chien.
Le chien des enfers, il faut savoir qu'il s'appelle Toutou.
Par quoi est-ce qu'on commence ? On commence par présenter le livre ou par présenter les auteurs ?
Donc c'est un beau livre dans sa pochette cartonnée, il est gris avec un joli dessin.
Oui, on présente quoi alors ?
Moi je préférais présenter les auteurs.
D'accord.
Pour savoir à quoi vous attendre avant de faire le massacre général, de tuer tout le monde, etc., 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 etc. Enfin le truc habituel quoi.
Ok, donc les auteurs c'est pour ma pomme.
Oh, peut-être pas, Terry Pratchett, je peux te dire quelque chose si tu veux.
Alors, on va commencer par Terry Pratchett. Terry Pratchett qui est l'auteur des Annales du Disque Monde.
Amateur du chiffre 8.
Amateur du chiffre 8. Alors, il y a, je ne sais pas...
La huitième couleur, le huitième sortilège.
Alors, il y en a 18 de sortie pour l'instant, mais il ne va pas être à jour sur ce livre.
Oh non, ouais, il y en a plus, quoi. Je crois qu'il y en a plus.
C'est
énorme,
plus.
Les Annales du Disque Monde.
Et donc Terry Pratchett est un auteur anglophone,
anglais même,
ouais anglais, qui est considéré comme ayant un humour aussi percutant que l'était P.G. Wodehouse en son temps, et comme Douglas Adams, l'auteur de... Alors P.G. Wodehouse, je rappelle que il a écrit toute une série autour du personnage de Jeeves, et Douglas Adams, l'auteur de la trilogie en 5 volumes, qui est Le Guide du Routard Galactique.
Ainsi que la tête, le cheval dans la salle de bain, dont on vous avait dit.
Oui, tout à fait. Ici. Le cheval dans la salle de bain, premier tome des aventures de Dodge. Je suis surpris par le fond sonore, mais c'est très bien. Alors, les annales du Disque Monde, qu'est-ce donc ?
Alors, ce sont les annales d'un monde qui s'appelle le Disque Monde. Et donc. Non, c'est de l'héroïque fantasy parodie.
Voilà. Alors, il faut imaginer une grande tortue.
Non,
alors,
il faut d'abord, il faut imaginer l'héroïque fantasy. Peut-être que les gens connaissent pas ce que c'est l'héroïque
fantasy. Oui, alors l'héroïque fantasy, c'est du Tolkien.
Ouais.
Le Seigneur des Anneaux.
Voilà, c'est des magiciens, des chevaliers, et on se tape joyeusement sur la gueule en s'enfilant des peaux de banane.
Voilà. Et Monsieur Pratchett est un grand humoriste. Il décide de prendre à contre-pied tout ce qu'avait fait Tolkien, sans pour autant le renier, parce qu'on peut pas renier Tolkien. Et il a décidé de créer une tortue géante, de poser 4 éléphants dessus et une cloche à fromage dessus, et ça nous fait le Disque Monde.
Mais en fait, le Disque Monde, c'est uniquement la cloche à fromage.
Oui, mais on peut pas l'enlever de la grande Atwin, la tortue.
Ouais, je préfère la grande Atwin.
Ah, moi je dis Atwin.
Atwin, ça fait un jeu de mots, il manque une lettre, et il y a une lettre en trop pour faire nettement graveleux.
Bref, alors dans cet univers de Disque Monde, on retrouve des personnages récurrents comme Rincevent,
oui.
Comme la mort.
Oui, qu'on retrouve également dans De Bons Présages.
Oui, mais différemment. On retrouve également Cohen, l'octogénaire barbare.
Enfin, non, mais ça, il n'est pas récurrent, lui.
Il n'est pas récurrent ?
Non.
J'ai pas fini de tout lire, moi, donc je ne peux pas...
Non, bah dans les deux premiers, il n'apparaît pas.
Bah si, il apparaît dans le deuxième.
Dans le troisième, il n'apparaît pas, par exemple. Dans le quatrième, il ne doit pas apparaître non plus. Non, les personnages récurrents sont vraiment Rincevent.
Ouais, Rincevent.
Et la mort.
Et la mort. Bon, allez, ça fait déjà deux, c'est pas mal.
Oui, surtout que la mort est excessivement récurrente.
Oui, parce que c'est un petit peu son boulot de tuer les gens, donc il faut la ramener régulièrement. Donc...
Oui, mais je te ferai remarquer qu'elle a fait ça à la main, à l'ancienne, alors que dans d'autres mondes, la mort a investi dans des moissonneuses-batteuses.
Exactement. Voilà, donc les Annales du Disque Monde, si vous ne connaissez pas, eh bien, achetez le premier volume qui est...
le huitième sortilège.
La
huitième couleur.
La huitième couleur. Ça plaira pas à tout le monde, je suis désolé de le dire, mais il faut quand même rentrer dans un état d'esprit qui est proche du jus de pêche pour pouvoir complètement interpréter les vannes sous-jacentes à l'univers du Disque Monde. Donc ça, c'était pour Pratchett, hop. Et le deuxième auteur, il s'agit de Neil Gaiman. Alors Neil Gaiman, vous ne le connaissez peut-être pas.
Non.
C'est l'auteur, il est surtout connu en BD pour sa bande dessinée qui est Sandman, qui est un best-seller, et pour sa série de nouvelles et de romans. Alors moi, Monsieur Gaiman, il m'énerve proprement, parce qu'en tant que jeune auteur qui a envie de percer, tout lui réussit à ce monsieur. C'est-à-dire que je suis entre le désir de le haïr et le désir de l'admirer, à savoir qu'il ne peut pas sortir un roman sans gagner un prix de nouvelles, enfin sans gagner un prix avec. Par exemple, le dernier que j'ai lu, c'est Neverwhere, et il a gagné un prix de Julia Vellander. Quand il a sorti American Gods, il a gagné le prix Victor Hugo, le prix Bram Stoker et un autre prix.
D'accord, trois d'un coup.
Ouais, trois d'un coup. Et il a été nominé pour la World Fantasy Award en 91. Oui, donc c'est pas un canyon, ce monsieur. Et il a quand même il a développé un univers qui est vachement particulier, qui est très très proche de... je ne sais pas. D'un univers qui lui est propre, où on n'a pas de mal à rentrer dedans du tout. C'est vachement onirique, rapport à The Sandman, qui est quand même très orienté sur l'univers du rêve. Et donc, je n'ai lu que Neverwhere, un roman qui reçoit trois prix internationaux, fondamentalement, doit être bon.
Tu sais que tu donnes presque envie de le lire, là.
Non, mais Neverwhere, je vous en parle, Neverwhere ? Parce que moi j'ai adoré.
Non, je parle de l'auteur, en fait, tu donnes presque envie de le lire.
Mais il faut le lire. Honnêtement, ce mec, il a 45 ans, et s'il a une carrière de 30 ans encore, voilà, quoi, il va être aussi connu que l'ami Tolkien. En termes de réputation, j'entends, parce qu'il fait également de la bande dessinée et du roman quand il a le temps.
Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, il a des journées de 48 heures.
Il a des journées de 48 heures. Je sais pas comment il fait, mais...
Mais il l'a fait.
En plus, il a des romans... Enfin, le roman que j'ai lu est quand même vachement intimiste, dans le sens où dès qu'il y a un moment où on peut s'identifier au personnage, à ses réactions, à ce qu'il a envie de faire, à ce qu'il a fait, moi, je dis que c'est déjà gagné. Et franchement, quand j'ai lu le dernier chapitre... Bah, j'avais pas envie de décrocher l'univers dont il avait créé, j'avais envie de continuer à rester dedans. Pour donner un aperçu de Neverwhere que je recommande franchement à tout le monde, imaginez un soir que vous êtes avec votre copine, vous allez à un dîner avec elle, mais avec son patron, et de nulle part sort une fille, mais vraiment nulle part, c'est-à-dire qu'il y avait un mur, et une fille tombe du mur, elle est blessée, et donc vous êtes quelqu'un de gentil, vous décidez de la ramasser, de l'emmener à l'hôpital, voir un médecin, ou dans le pire des cas chez vous. Ce que vous faites, parce que...
Comment ça dans le pire des cas? Elle est si moche que ça.
Mais non, mais ça veut dire que quand tu es avec une copine, avec quelqu'un depuis longtemps, on ne ramène pas la première inconnue comme ça chez soi.
Bah si, pourquoi?
Oui, en l'occurrence, non. En l'occurrence, lui, il va le faire.
Ah, tu vois, qu'est-ce qu'on disait?
Donc je signale juste à la petite amie de Clément que si elle veut, je lui prête ma batte cloutée, que la porte du studio est ouverte et si elle a besoin d'un coup de main, je lui montre le chemin.
Donc il ramasse cette jeune femme qui s'appelle Porte et
oui parce que la porte est toujours dans le mur.
Oui, c'est à peu près ça. Et du jour il la sauve.
D'où prenez la porte, jeune homme?
Du jour où il la sauve, tout déconne dans sa vie. C'est-à-dire qu'il est...
Tu vois, quand on s'appelle Porte, ça me rappelle une certaine tête de veau, ça.
Sa copine le largue, alors qu'ils étaient fiancés. Il est viré de son boulot et plus personne ne le reconnaît dans la rue. C'est-à-dire qu'il est même plus vu par les gens. Et il apprend que la fille vient...
Trop cool.
La fille vient d'un Londres qui est en dessous, le Londres normal. Un Londres vachement steampunk dans lequel il y a les rats ont un rôle prépondérant. Ce sont eux qui dirigent la société. Et donc lui, comme il ne peut plus être vu en haut, il va en bas. S'ensuit encore une quête épique. Et franchement, si vous trouvez Neverwhere de Neil Gaiman, c'est à prendre à côté d'American Gods, de Stardust et d'autres livres de son cru. Voilà pour la présentation des auteurs. Coupure musicale. Oui, Écart.
Lord du Ricard.
Non, il est la nuit. On a rattrapé le temps qu'on avait perdu au départ. C'est génial. Donc Pratchett, oui. Gaiman, oui. et de bons présages, Pratchett plus Gaiman, double oui.
Ouais, voilà.
Qui a une musique de Pratt? Clément.
Chef, oui, chef, ici, chef.
Ouais, moi j'ai une musique de Pratt. Je sais pas si ça va être très dans le thème, mais en tout cas je trouve ça bien trippant. Donc pour le principe, je me dis que la diffuser ne serait pas nécessairement une mauvaise idée. Est-ce qu'on a entendu le pluck?
Non, on n'a pas entendu le pluck.
Il s'agit de Dreadlock Holiday, qui est une musique extraite de la bande originale de l'excellentissime film Snatch, que je vous recommande. Donc c'est pas forcément tout à fait dans le thème Angers des Monts, mais c'est un bon petit truc de reggae bien sympathique, de derrière les fagots, j'ai envie de dire. Puis ça faisait longtemps que j'avais envie de passer un petit peu de la BO de Snatch, qui est quand même un excellent film et une excellente bande originale. Je pense que certaines chroniqueuses musicales pas du tout à l'arrache me plussoiront à ce que je dis.
Dès que tu m'auras passé le film en question, je pourrai plus soirer tant que tu voudras.
D'accord. Ok, bon bah, je suis parti. Si t'es parti, je suis parti. Allez, c'est parti.
À quel endroit allons-nous chercher? Le seul indice que nous ayons est la parole d'un muet.
Culture au placard, tous les lundis 20h sur Graphite.
Bien. C'était quoi, Clément?
Dreadlock Holiday. Alors, je dois vous avouer que je sais pas qui est l'artiste, j'ai pas pris le renseignement, mais c'est sur la bande originale du film Snatch, un très bon film qu'il faut acheter et une très bonne BO qu'il faut acheter aussi.
Oui, d'accord.
En même temps, si t'achètes le film, t'as la BO normalement. Enfin, je dis ça, je dis rien.
On enchaîne après avoir présenté les auteurs en présentant le livre.
Il y a 11 ans.
Non, on ne commence pas comme ça, voyons.
Ah si, bourrin cache.
Non, mais non, carrément pas. Le livre s'appelle De bons présages. Il est de Neil Gaiman et Terry Pratchett. Et pour vous mettre dans le ton, nous allons vous lire les premières pages. Là, tu peux le dire.
Ouais, mais c'est nettement moins drôle, quoi.
Oui, mais non, parce que je pense à l'auditeur moyen qui est en train de regarder son truc.
Moi, je suis
direct
bourrin, il met dans le bel mot sur le volant. Si l'on admet que l'univers a été créé et n'a pas commencé officieusement... Pour ainsi dire, les théories actuelles sur sa création lui attribuent entre 10 et 20 milliards d'années. Selon un calcul identique, on juge d'ordinaire que la Terre a 4 milliards et demi d'années. Ces estimations sont fausses. Les kabbalistes du Moyen-Âge ont évalué la date de la création à 3760 avant Jésus-Christ. Les théologiens orthodoxes grecs remonteraient jusqu'en 5508 avant J.C. également. Erreur, là aussi. L'archevêque James Usher, 1581-1656, publia en 1654 ses Annales Veteris et Novi Testamenti, qui suggérait que le ciel et la terre ont été créés en 4004 avant Jésus-Christ. Un de ses collaborateurs poussa les calculs plus loin et put annoncer triomphalement que la Terre avait vu le jour le dimanche 21 octobre 4004 avant Jésus-Christ à 9h du matin précise parce que Dieu aimait travailler tôt pendant qu'il se sentait frais et dispo. Il se trompait également de presque un quart d'heure. Ces histoires de fossiles de dinosaures sont un canular, mais les paléontologues ne l'ont pas encore compris. Ce qui prouve à l'évidence deux choses. D'abord, que les voies du Seigneur sont vraiment impénétrables. Elles fonctionnent peut-être même en circuit fermé. Dieu ne joue pas au dé avec l'univers, mais à un jeu ineffable de son invention, qu'on pourrait vaguement comparer du point de vue des autres joueurs, c'est-à-dire tout le monde, à une version obscure et complexe du poker en chambre noire avec des cartes blanches pour des enjeux infinis face à une banque qui refuse d'expliquer les règles et qui n'arrête pas de sourire. Et ensuite, que la Terre est balance. Alors le jour où commence cette histoire, l'horoscope des balances dans la rubrique « Les étoiles et vous » de l'Écho de Tadfield annonçait Balance, 24 septembre, 23 octobre. Vous avez l'impression d'être au bout du rouleau et de tourner sans cesse en rond. Dans votre foyer et votre famille, d'importantes rivalités s'éternisent. Évitez les risques inutiles. Un ami jouera un rôle capital. Remettez les grandes décisions en attendant une embellie. Possibilité d'embarras gastrique aujourd'hui, évitez les salades. Vous pourriez recevoir de l'aide d'une source inattendue. Et bien tout cela était
rigoureusement exact. Sauf l'histoire des salades.
Bien, donc c'est, il s'agit des deux premières pages du livre et je pense que vous avez compris le ton totalement décalé qui va, je ne dirais pas exponentiellement, mais au moins linéairement durant tout le livre. Étienne, de quoi ça cause donc ?
Bah de la fin du monde.
De la fin du monde.
Qui aura lieu samedi prochain, après le thé.
Oui.
Tout naturellement. Alors, donc, c'est très rigolo comme histoire. C'est-à-dire, l'antéchrist arrive, hein, quand même, Apocalypse en Saint-Jean.
Oui.
Il est élevé.
Oui.
Bon, là, il y a une petite couille de, enfin, ridicule, quoi.
Disons qu'on échange les bébés à la naissance.
Ouais, selon un système, en fait, du jeu des gobelets. Vous savez, trois gobelets, hein, un poids, faut trouver le bon. Bon. Donc là, bon, donc il arrive sur Terre à l'âge de ses 11 ans, c'est prévu comme ça. Il doit recevoir comme cadeau le Molosse des Enfers, une bête affreuse, tout ça, qui doit l'aider à répandre la terreur sur le monde. Et puis à ce moment-là, donc les armées du paradis et des enfers se taperont sur la gueule et la Terre sera détruite, etc., 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 etc. Sauf que bon, il y a eu un petit problème, enfin même plusieurs. C'est-à-dire que déjà il y a eu le serpent de la tentation qui s'est dit que lui il n'avait pas cherché à midi à 14 ans. Enfin je veux dire, Dieu il a un peu fait exprès quoi. C'est fait exprès. Enfin je veux dire, il a foutu un arbre en plein milieu quoi. Bon, c'est un peu exprès quoi. Et puis il y a son copain Aziraphale qui lui est un ange. Donc c'est pareil, lui il a filé sa grande épée de feu parce que Adam et Ève se les gelaient singulièrement. Et puis il y a Adam, l'antéchrist, oui parfaitement, qui s'est un peu gouré de famille à sa naissance, si bien qu'au lieu de se retrouver dans une famille de satanistes, il se retrouve dans une famille de la banlieue de Londres tout à fait normale. Alors forcément quand le Molosse des Enfers arrive et qui doit prendre la forme... qui est souhaitable en fait par l'antéchrist, celui-ci souhaite un petit chien qui remue la queue et qui puisse glisser dans les trous où il va. Enfin, pas du tout un gros molosse, quoi, mais vous voyez plutôt le Yorkshire. Et le nom aussi est très important pour savoir si ce sera le destructeur des mondes, la dysenterie aggravée, un truc comme ça, quoi. Eh bien, le chien de l'enfer. Par la grâce de l'antéchrist, s'appelle Toutou.
Ça aurait été marrant qu'il s'appelle Pupus quand même. Hein. Je veux dire, quelque part, on aurait retrouvé une... Bon, bref.
Mais ce que j'adore dans ce livre, c'est qu'il y a plein d'images extrêmement travaillées. Quoi. J'adore les quatre cavaliers de l'Apocalypse,
ouais.
Ainsi que les quatre autres cavaliers de l'Apocalypse, qui sont évidemment les Hells Angels.
Ouais.
Tu veux dire, genre, il y a une écurie concurrente ?
Non, il y a une écurie servante, en fait, plutôt.
C'est-à-dire que, donc, il y a la mort, la famine, la guerre, et le dernier, officiellement, c'est
la pestilence.
La pestilence, qui n'avait plus de boulot, qui était remplacée par la pollution.
Voilà, oui. Je trouve génial. La pollution, je la trouve géniale, quoi. C'est-à-dire, donc, à la fin, ils se retrouvent tous à moto, quoi, parce qu'on est au 20e siècle, quand il écrit, c'est au 20e siècle, il me semble.
Ouais,
donc on est à la fin du 20e siècle, donc ils se baladent pas à cheval, mais ils sont les cavaliers à moto avec écrit « Cavalier de l'Apocalypse » sur leur blouson de cuir clouté. Et Pollution est génial parce qu'il a une belle moto bien blanche et il perd de l'huile, de l'essence, des boulons. Quand il marche, il y a des paquets de chips qui volent autour de lui. Enfin, c'est une merde phénoménale, quoi. Et en plus, il se paume.
Et voilà, donc l'antéchrist ayant tous les pouvoirs, celui-ci une imagination débordante, on s'étonne plus de voir des météores arriver, des Tibétains en train de creuser la Terre pour rejoindre l'autre côté, ou l'Atlantide qui refait surface, enfin...
Des centrales nucléaires qui fonctionnent sans uranium, avec du bonbon citron.
Tout à fait, c'est franchement un bouquin où le n'importe quoi règne en maître, mais c'est tellement bien fait que c'est tellement génial. Est-ce que Caroline voudrait dire un petit mot à propos de ce livre, puisqu'elle l'a lu elle aussi?
Je pense qu'elle le veut le temps qu'elle remette son pantalon.
Voilà, c'est fait.
J'étais en train de faire des trucs avec Clément. Bref. ça, c'est fait. Non, c'est, en fait, c'est un livre qui... l'histoire, elle se résume assez rapidement, en fait. C'est l'Apocalypse, on va tous mourir ou pas. Sauf que c'est très très bien écrit. Et donc en fait, on s'ennuie pas, on s'amuse réellement des jeux de mots. Les jeux de mots et les petites annotations de bas de page. Parce que c'est vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des annotations de bas de page qui font la moitié d'une page. Ça permet de faire des. Ouais, carrément de faire des blagues qui sont hors de l'histoire. Et puis de faire des apartés. En fait, j'ai une bonne blague à vous raconter. Et en fait, c'est un côté narratif, mais très axé. Conteur d'histoire quelque part, parce qu'on sent qu'il en rajoute à chaque fois, on a l'impression qu'il en rajoute à chaque fois, ce qui fait que au final, ce qui est plus intéressant, c'est pas l'histoire en elle-même qui avance tant bien que mal, mais c'est plutôt la description des personnages, les réactions, et là ça devient tout de suite amusant, ça fait une très belle galerie de personnages en fait.
Alors
superbe.
Ouais voilà, très bien,
vraiment superbe.
Et
j'adore la note de bas de page. Il y a une note de bas de page que j'adore. Où il y a la famille en fait qui fait une chaîne de hamburgers et les éclaireurs de sa chaîne de hamburgers débarquent en France et là, merci monsieur Pratchett, monsieur Gaiman, les éclaireurs de cette chaîne ont été abattus 25 minutes après leur descente de l'avion à Paris.
Ouais, c'est vrai, mais voilà, ce genre de remarque, je pense que c'est plus proprement du Neil Gaiman qui le fait.
Alors après, lequel des deux fait les remarques, dans l'absolu, en tant que lecteur, on s'en fout.
Quoi. Totalement.
Mais ça apporte, on va dire, une légèreté au roman. C'est-à-dire que parfois, il y a des passages de description assez longs sur une route en forme de signes cabalistiques.
Alors ça, je pense que c'est du Pratchett, très clairement. C'est-à-dire que quand tu auras lu Neverwhere et quand tu auras lu Pratchett, tu verras très clairement que les grandes allégories métaphoriques, c'est du Pratchett. Et tout ce qui est la petite vanne en douce, c'est du Gaiman.
Et en fait, mais ce qui est assez sympa, c'est que bon, donc on a les descriptions, comment on arrive à dévier une route par les puissances sataniques. Bah, la puissance satanique, elle se réveille, elle va déplacer les plots pendant une nuit. Je trouve ça beaucoup de classe, quoi. Et donc là-dessus, il y a donc ce qui pourrait devenir très lourd, parce qu'expliquer qu'une route où les voitures brûlent par combustion spontanée, ouais, enfin voilà, quoi, c'est gentil, mais il arrive un moment, c'est saoulant. Et ben là-dessus, on a une petite vanne qui fait les policiers virent passer une voiture complètement en feu avec un occupant à l'intérieur qui ne cramait pas et passer les barrages de police comme si de rien n'était. Je trouve que quelque part, il y a un côté on va faire comme si Kéop et on va dire que toi tu conduis une voiture qui brûle, mais tu meurs pas pour de vrai. Et ce genre de truc, ça devient tout de suite très amusant.
Ah, y a un truc,
vrai que quand on connaît aussi Pratchett, clairement, je pense qu'on peut dire que la mort dedans. C'est Pratchett.
Ouais,
Pratchett.
Je pense qu'elle parle pareil avec des lettres capitales.
Oui, oui, elle s'exprime pareil, elle fait les mêmes conneries.
Ah, moi, ce qui me fait rire, c'est la fameuse cassette audio qui, une fois qu'elle passe plus de deux semaines dans une voiture et la boîte à gants.
En fait, c'est une loi universelle instaurée par donc, un des démons, donc a priori Rampa, qui a instauré comme règle que toute cassette audio oubliée dans une voiture plus de 15 jours se transforme automatiquement en Best of the Queen.
Je trouve ça absolument génial.
Et donc vous avez les 4 saisons de Freddie Mercury.
Et ce qui est très amusant, c'est qu'il se fait prendre lui-même à son propre jeu. C'est-à-dire qu'il veut écouter un truc sympa. Tiens, on va écouter un petit peu la grande musique classique. Eh ben non, parce qu'il a posé une saloperie de loi qui fait qu'il se retrouve en train d'écouter du Queen.
Et ce que j'adore, c'est quand même aussi, même ils arrivent à reprendre des blagues éculées, mais éculées jusqu'à la trame, pour en faire un truc grandiose. Exemple, le seau d'eau au-dessus de la porte.
Le seau d'eau au-dessus de la porte, de l'eau bénite, il faut le dire.
Manipulé par un démon.
Manipulé par un
démon. En combinaison anti-Tchernobyl.
Tout est très bien. Tout passe comme une lettre à la poste, parce que ça, c'est très naturel. Et ça, je te dis, ça ressemble à une blague de gamin, genre, oui, mais on va dire que je te mets de l'eau, que t'es pas mort, parce qu'il faut pas que tu meurs tout de suite. Puis moi, hop, je m'engouffre dans le téléphone. Je trouve qu'il y a un côté gamin qui s'amuse.
Ah, mais très clairement, le jour où je ferai un bouquin en collaboration, j'espère que ça sera aussi bien.
Ouais, en même temps, du naturel, je sais pas trop quoi.
Voilà. En même temps, le jour, je ferai un bouquin tout court.
Enfin, est-ce qu'on peut considérer comme naturel un inquisiteur en casque rose sur un scooter?
Scooter italien.
Italien.
Une Vespa.
Vert. Avec une nana sorcière devant en casque à fleurs.
Le tout traversant.
Vraiment...
Attends. Le tout traversant la lune comme E.T. parce que il.
Oui, voilà.
Parce que je crois qu'en fait, il y a pas. Oui, c'est parce qu'en fait, la nana est possédée par l'esprit du bien. Qui tant qu'à faire pour aller plus vite, on va faire voler le scooter et le faire passer au-dessus de la lune comme E.T. Ça, la grande classe.
Et dites-vous qu'on brosse à peine un tiers du livre. Donc, en conclusion, de bons présages, Good Omens en VO dans le texte, c'est un livre qui est bien.
C'est un livre qui est terrible, quoi.
Qu'il est facile à lire.
Et qu'il est surtout, avant de le lire, aller aux toilettes avant, c'est important.
Pourquoi ?
Pour ne pas se pisser dessus.
Ok. Bon, ça, c'est fait. voilà, donc de bons présages. Le Zen du Disque Monde, Neverware et compagnie. Que des bonnes adresses à trouver.
Alors, si vous trouvez une Bentley 1929, sachez que je suis preneur.
Ouais. Ça se trouve facilement à Compiègne dans le grand magasin qui vend des trucs très très chers. Sauf les livres qui ont un prix imposé. Tout le monde voit à quoi je fais référence.
Non, mais si tu veux, il y a une librairie.
Il y en
avait
plusieurs.
Non, mais il n'y en a pas à la librairie.
Mais si, il y a ça à la librairie.
Il n'y a pas ça à la librairie.
Mais c'est obligé qu'il y ait ça.
J'y suis allé samedi et j'ai pas trouvé ni de bons présages ni aucun livre de Gaiman.
Mais attends, tu lui demandes, c'est obligé.
Oui, mais bon, pour les gens qui veulent l'avoir tout de suite.
Enfin, espèce de consumériste, salopard ! Espèce de capitaliste dégénéré ! J'aurai ta peau !
Enfin, bref.
Et là, vous pouvez remarquer que. Roland, pourquoi Roland ? Non, Étienne. Étienne vient de pousser une hurlante. Et pour toi, ami auditeur, il a pensé à se reculer du micro pour pas te broyer tes petits tympans et niquer notre compresseur de diffusion.
Ouais, avec l'émission du jeudi, je commence à prendre le coup de main.
Alors, toute cassette qui passe plus de deux semaines dans une voiture finit en.
Best of Queen.
Best of the Queen. C'est la raison pour laquelle nous allons passer du.
Queen.
Et voilà, comment
et
c'est bien
fait.
Et ça
y est, tu reprends tes mauvaises habitudes, tu gueules. Et là, c'est-à-dire que ce que je viens de dire, personne ne l'a entendu.
Absolument pas. Musique Queen avec Bohemian Rhapsody.
Spécial dédicace à Wayne's World, avec la Garp Mobile, le film que je conseille qui n'a rien à voir avec les anges et les démons. C'est parti, on va en placard.
Mais on peut pas distribuer sa drogue tranquillement.
Culture en placard, tous les lundis 20h sur Graphite.
Alors, c'était donc Bohemian Rhapsody du groupe Queen. On enchaîne toujours sur la thématique Ange et Démon avec la chronique BD que je ne fais pas pour une fois, mais qui sera tout aussi bien faite.
Alors, ce soir, donc, c'est moi qui me tape la chronique BD. Je vais d'abord vous parler de Gabriel. Alors, cette superbe BD est dessinée et scénarisée par le sympathique Kara. Allez, chef, je vais te laisser parler un peu.
Non, mais ce qui me fait rire, c'est que tu dis le sympathique, tu le connais même pas.
Mais non, mais il est sûrement sympathique, sa BD est superbe. Bref, donc oui, toi qui le connais, raconte-nous oui. Ce que fait Kara.
Pour information, Kara était venu au Festival de Bande Dessinée il y a 2 ans. Et donc, il est extrêmement sympathique. Il fait scénario et dessin couleur sur Gabriel et également sur Le Miroir des Alices aux éditions Soleil, tome 2, paru il y a 1 mois. Voilà.
Merci, bien. J'en reviens donc à Gabriel. L'héroïne est donc... Ta-da-da, l'archange Gabriel, pardi. Alors, elle a totalement pété les plombs dans cette BD, vu qu'elle se met à massacrer aveuglément des humains. Bon, on pourrait se dire qu'elle est purgataire de quelques souillures démoniaques incarnées en humains. En fait, il n'y en est rien. Elle découpe sans remords, par exemple, une jeune fille innocente devant nos yeux. Son singulier comportement amènera donc sa sœur, Raphaël, à la poursuivre pour comprendre et, bien sûr, l'arrêter. Cette BD ne comprend qu'un seul tome, pour l'instant il me semble. Et
Non, il n'y en aura qu'un seul.
D'accord, donc elle comprend bien un seul tome qui se suffit totalement à lui-même. Il mélange habilement action, enfin boucherie, et réflexion philosophique apparaissant lors de moments plus tranquilles, notamment lors d'une superbe confrontation verbale entre les deux sœurs. Ce qui m'amène à parler de nos divins personnages, Gabriel et Raphaël. Alors, elles prennent toutes les deux l'apparence de jeunes filles inoffensives, mignonnes et douces à tout plein. Bon, pour Raphaël, ça se comprend, l'aspect extérieur reflète sa pureté intérieure. Alors que pour Gabriel, c'est un être plus rongé, perturbé, torturé à la fois par ses actes et par les raisons qui la poussent à les commettre. Bien sûr, il y a aussi un peu de soufre dans cette histoire, le malin ayant aussi son rôle à jouer, acteur principal qui apparaît en filigrane et parfois en chair et en os. Au niveau de la réalisation graphique, le dépaysement est au rendez-vous. Comme Gabriel se balade à travers le monde pour accomplir son forfait, on voit beaucoup de décors différents. L'époque et les lieux sont une sorte de contemporain alternatif, mélangeant architecture orientale et occidentale dans une sorte de révolution industrielle. A noter que les décors eux-mêmes sont porteurs de sens. À plusieurs moments, les faits, les concepts dont parlent les personnages sont relayés par des représentations insérées dans le décor même. Pour revenir au mélange Orient-Occident, le dessin des personnages aussi en est imprégné. S'inspire du dessin manga, tout autant, tout autant que d'un style plus conventionnel BD européenne, pour autant qu'on puisse définir une sorte de convention. Pas de panique, le dosage est savamment pensé, le graphisme est très attachant. Pour conclure sur cette superbe BD, elle est éditée chez Pointe Noire et je vous la recommande chaudement. Si vous
pause. Pointe Noire est une boîte d'édition qui a coulé depuis presque 3 ans. Elle a été rééditée aux éditions Soleil dans le même format avec le cahier de 4 pages en plus.
Bon, heureusement que le chef me reprend. Et donc, si vous trouvez la BD avec ce carnet de croquis, prenez, parce que c'est superbe, on y apprend plein de trucs et on comprend encore mieux l'immersion de l'histoire à travers les décors et les personnages. Seconde BD. Ange. Là, le ton change totalement, c'est du ridiculo, débilo, divin. Alors, du dessinateur Auger Boiscommun et du scénariste Dieter, cette sympathique série qui comprend actuellement 3 tomes, nous compte les aventures et mésaventures d'Angelot. On va noter que le 3e tome de la série n'est pas réalisé par le scénariste Dieter, mais le dessinateur qui a pris sa place pour le coup. Tout début donc dans une église, avec un curé, cela de soi, et l'homme à tout faire, petit Louis, ainsi que des anges gardiens qui doivent surveiller que les oies y restent dans le droit chemin. Malheureusement, nos anges gardiens de choc, Géliel et Yézod, sont un peu portés sur la bringue, ils abusent de pétards, ils boivent du vin de messe. Résultat, ils se font menacer par leur supérieur, Uriel, d'être envoyés à Notre-Dame si la situation n'est pas rapidement améliorée. Alors, il faut savoir que pour les anges Notre-Dame, c'est l'usine. Sur ce premier problème, dû aux bassesses humaines qui sont en hausse, vient se greffer un autre problème, les démons. En effet, ceux-ci tentent d'infiltrer sournoisement l'église pour réveiller un ancien démon super puissant. Ils utilisent même le curé qu'ils envoûtent, et c'est sans compter sur la surveillance de nos angelots, de leur pote Petit Louis, donc l'homme à tout flair, qui, soit dit en passant, est vachement sympa et leur file de l'aspirine après qu'il soit cuité au vin de messe. Et d'une angelote qui viendra grossir les rangs, mais je ne vous dirai pas plus pourquoi il y a cette présence féminine. Donc tout ça, c'est seulement l'histoire du tome 1. D'un point de vue plus global, vous aurez donc le droit à des anges un brin débile, haut comme une canette de bière, 33 centilitres, des diablodins carrément débiles mais en rouge et qui sentent la musaraigne, le tout servi sous la forme d'une guéguerre des boutons divines, un peu moins débile mais quand même. Bon, un exemple, les pigeons de Paris convertis en bombardiers par les diablodins. A savoir quand même que l'histoire reste centrée sur le groupe de potes angéliques du début. Au niveau graphique, tout ce joyeux petit monde a la chance de s'animer sous le crayon de Boiscommun, à qui l'on doit déjà la BD Le Livre de Jack et Le Livre de Sam. Personnellement, j'aime beaucoup le style. Et comme j'arriverai pas trop à le décrire, je vous recommande plutôt d'aller feuilleter une des BD de ce dessinateur pour vous faire votre propre avis. Ah, j'allais oublier, cette série est disponible chez Les Humanoïdes Associés. Ça n'a pas coulé, Les Humanoïdes Associés?
Non, pas encore.
D'accord, bon voilà.
Merci Max de ces deux chroniques fantastico-lyriques. Hop, là, sortons un mot
hasard. C'est naturel.
J'en profite pour glisser un mot polémique, comme j'ai l'habitude de le faire quand on parle de bande dessinée, ou pas, à savoir sur le double scénariste Ange, tout bêtement, qui ne sont plus deux parce que le mec s'est fait larguer par sa copine, enfin bref, et qui ont l'habitude de nous pondre des scénarios que je qualifierais de haute volée. Et encore, alors ils ont fait quoi? Ils ont fait Paradis Perdu, qui se passe dans un climat avec des anges, donc c'est pour ça que j'en parle. Paradis Perdu, le tome 1 dessiné par Varanda, vaut le coup, mais vraiment si vous aimez Varanda, et si vous l'aimez, c'est que vous ne l'avez pas rencontré de visu. Voilà, c'est à peu près ça. Et avec, je sais pas si c'est toujours possible de le trouver, mais il y avait aux éditions 2B, ils avaient tiré le premier tome de Paradis Perdu avec d'un côté la planche crayonnée, de l'autre côté la planche ancrée. Ça n'a pas grand intérêt parce que la planche crayonnée est du même acabit que la planche ancrée, il n'y a aucune retouche dessus. Ensuite, ça a été repris par d'autres personnages, enfin par d'autres dessinateurs, mais vraiment ça n'a pas de grande importance. Ils nous ont pondu le Collège Invisible, Harry Potter, sauf qu'on ne prend pas Harry Potter parce qu'on n'a pas la licence, on prend le cousin d'Harry Potter. Voilà, très clairement, vous notez de
très haute volée.
Voilà, vous notez l'inspiration de ces deux jeunes personnes.
Je comprends bien le sens du mot voler dans ce cas.
Voilà, c'était juste mon coup de gueule pour dire que dès que vous voyez Ange sur une BD, regardez à deux fois avant de l'acheter, parce que généralement, ça vaut pas tripette. Voilà, c'était la partie polémique, elle est finie. Musique.
Alors avant, je rappelle d'abord que vous pouvez nous retrouver en direct sur le chat de Graphit où je m'ennuie tout seul. Tout seul sur le chat de Graphit, c'est triste. Donc vous pouvez aller sur le chat de Graphit www.asos.utc.fr/graphit rubrique à l'antenne. Et après, vous cliquez sur pénétrer le chat et voilà, et vous entrez dedans. D'autre part, vous pouvez nous retrouver sur le blog de Culture en Placard. Il faut le rappeler régulièrement parce que les gens n'y vont pas, apparemment.
En même temps, il n'y a pas les dernières photos de la semaine dernière, donc c'est normal que les gens n'y vont pas.
Voilà, c'est clair. Les photos attrayantes et chatoyantes de la semaine dernière n'y sont pas. Donc, sur le www.asos.utc.fr, comme le précédent, A2SOS/culpla, CULPLA, et vous retrouvez le blog, toutes les informations, toutes les références qu'on donne, tout ça, et même des trucs un petit peu à côté, vous les retrouvez. Et si vous voulez gagner des superbes dessins dédicacés par le chef, les superbes croquis que vous pouvez d'ailleurs retrouver en version électronique avec le fond d'écran sur le blog, et comme ça je fais bien mon lourd à fond, là j'en suis à 3 minutes d'antenne pour que dalle, vous pouvez les gagner en nous appelant au
03 44 23 49 08 et je le connais par cœur. 03 44 23 49 08.
Oui, mais personne ne
voit sexy.
Voilà. Alors, coupon musical. On va en profiter pour faire gagner un truc comme on a l'habitude de les faire gagner, c'est-à-dire que vous appelez ou vous choisissez. On a plus de disques à vous faire gagner. Il reste quoi? Il reste un bar en transe, il reste qu'un Fake Oddity, il reste un Dandy Warhol, il reste un autre truc dont j'ai oublié le nom et je peux pas me retourner pour vous dire ce que c'est. Il reste donc 4 disques à gagner. Vous appelez pendant la prochaine coupure musicale que Caroline nous a sélectionnée.
Aucun rapport avec la thématique du jour, histoire de bien emmerder le monde. C'est qu'en fait, quand on est arrivé tout à l'heure donc dans le studio, j'ai vu le CD qui fait les promotions des artistes dites découvertes du Printemps de Bourges qui se termine ce week-end d'ailleurs. Et dans le lot, mes yeux épatés ont découvert Broadway. Et pourquoi mes yeux épatés ont découvert Broadway? Parce que Broadway, c'est des potes à Fid. Alors, ceux qui suivent depuis longtemps savent que Fid est mon petit chouchou du moment, et puis du moment depuis un bout de temps. Et donc, ces mecs-là font un rock assez électro, vraiment empreint de nostalgie. Et donc, dans leur groupe, ils sont aussi armés d'un VJ. Qu'est-ce qu'un VJ? C'est un DJ, mais qui fait ça avec de la vidéo. Et ce qui permet de passer des vidéos un peu très nostalgiques. Quand la première fois que j'ai entendu ça, ça remonte à il y a bientôt, mettons 10 mois, allez, on va aller voir large.
Moi et,
non, pas toi. Et en fait, le premier effet que ça m'a fait, c'est tiens, c'est marrant, on dirait Shigo Ross qui regarde Matrix. Et je vais vous laisser découvrir donc leur titre qui doit être 060306, qui est sur l'album 0603AM de Broadway, B espace R espace OAD espace Way. Dans Culture en Placard.
Tu rappelles le numéro de téléphone pour que les gens puissent nous appeler.
Le numéro de téléphone, si vous voulez essayer de me réveiller, parce que je suis à fond là, c'est le 03 44 23 49 08. Je répète, le 03 44 23 49 08. Et on va vous donner le choix entre 4 CD et puis vous ferez vos emplettes. A tout de suite dans Culture en Placard sur Graphit 94.9 FM.
Ah, le drame, j'ai même pas le temps de préparer un jingle. Tant pis.
les cultures en placard tous les lundis 20h sur Graphit.
Voilà, mais merci, on n'a pas de jingle.
Ah, on a fait le premier jingle à la bouche de l'histoire.
On l'a déjà fait, souviens-toi.
Ah oui, oui, mais c'était pas celui-là.
C'est surtout qu'on n'avait pas de jingle, on n'avait rien, c'était une journée de perdition complète. et Dieu seul sait que c'est bon.
On était un petit peu en mode loose, j'ai envie de dire.
Ouais.
Complètement.
Alors que ce soir, la loose est différente.
Ce soir c'est la loose, mais c'est parce qu'on est tous très fatigués, voilà. Nous avons tous eu un week-end chargé, nous sommes sortis hier soir, nous avons tenté d'avoir une vie sociale.
Le concert c'est pas fini tard quoi, il était...
T'es gentil, tu...
Il était 11h30...
Non, ça c'est pas fini très tard en soi.
J'ai dit 11h30, ça me paraît plus long, c'est pas
non, dramatique. On va dire que c'était un show bien complet, relativement long pour un set, mais en même temps Bernard l'a vu, il était seul, donc il n'y a pas de première partie, donc on peut faire un spectacle qui dure bien 1h30, 2h. Pendant que Max satisfait son propre ego en se photographiant lui-même dans le studio de Graphite.
C'est vrai qu'il a commencé à 9h30, il a fait ses 2h quand même.
Il a fait ses 2h. 2h de choses, respecte. C'est pas correct.
Et surtout c'est passé
quand
très
on a
vite,
58 ans.
Il a 58 ans.
Il a 58 ans.
C'est pas vrai, il a la patate ce monsieur.
Ok, ça c'est fait.
Lazik.
Ta-da-ta-ta-ta. Toi aussi, chante
faux. Toi aussi, chante faux, c'est à peu près ça.
Alors, thématique du jour, j'avais décidé, en commun accord avec ma conscience, de vous faire une petite, un truc lié avec les anges et les démons, et puis c'était gentil, et surtout dans le genre musical qui me concerne le plus, c'est-à-dire le rock. C'est facile de trouver des gens un peu maudits, des gueules d'anges avec des vis de démons, c'était assez simple. Et j'ai reçu un mail... du chef en disant non, vas-y, trouve-nous une référence biblique dans la musique.
J'ai envoyé un mail dans le genre, moi.
Ouais, ouais, dans le genre. Et là, j'ai fait oh putain. Et en fait, putain, pas vraiment. Parce que la musique à l'origine, si on part, on part juste après, entre les dinosaures et juste avant Jésus-Christ, en fait, la musique, c'est quand même quelque chose d'assez, d'assez religieux. Et là, on vient entendre un chplouc, on remerciera notre Pac-Man du jour, c'est-à-dire Clément. Donc en fait, la musique était très utilisée donc, dans les religions, notamment dans les églises. Et au niveau du rock, on le ressent énormément. Parce que le blues, donc, qui traduit la souffrance des esclaves noirs, est aussi utilisé, une espèce de mélange avec du gospel. Et si on prend l'homme par qui tout commença, c'est-à-dire Elvis Presley a commencé à chanter du gospel dans les églises. Et en fait, donc Sam Phillips, l'homme qui allait devenir son producteur en 1956, a dit « Trouvez-moi quelqu'un qui chante, un blanc qui chante avec une voix de noir, et je gagne des millions. » Surtout les millions de l'époque, ça en fait beaucoup aujourd'hui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le rock un peu bluesy des communautés noires est passé chez les jeunes blancs, plutôt de confession chrétienne. Et en fait, ça commence, c'est là que le rock a pris toute son ampleur. Et des gens comme Jerry Lee Lewis, même s'ils parlaient beaucoup d'alcool, de drogue et de ce genre de choses, étaient des gens foncièrement chrétiens. Et les tout débuts du rock aux États-Unis a commencé comme ça. Si on reprend et si on traverse la Manche et on traverse un peu les années, reste pas derrière moi, Étienne, j'aime pas ça. Donc on arrive au niveau des inénarrables Beatles et il y a une citation. En fait. Des jeunes gens comme les Beatles, les Rolling Stones, on n'en parle même pas. Ces gens sont le mal incarné. Les Beatles, déjà, c'est limite. C'est des gens qui consomment des stupéfiants, ils sont le mal. Et concernant ce genre de choses, donc, en règle générale, les Beatles, pareil, ont grandi dans les quartiers de Liverpool, donc sont de confession protestante. Et il y a cette citation de John Lennon qui dit « Le rock vivra plus longtemps que Jésus-Christ », qui a déferlé des chroniques et qui a créé contre eux une espèce de cabale en disant que les gens qui font du rock, le rock au sens large du terme, sont des athées. Et c'est resté. Bizarrement, donc, sur la fin des années 60, on arrive avec les hippies. Nos amis les hippies sont pas plus athées que ça, mais ils ont un mode de vie assez dissolu. Et c'est des gens qui vont chercher un réconfort quelque part, mais on va dire que la chrétienté, dans son sens global, n'aime pas trop ces gens aux mœurs dissolues, elle ne les accepte pas vraiment. En Jamaïque, on a le mouvement inverse, avec l'émergence du reggae. Et là, le reggae, en fait, s'inspire énormément de la Bible, pour les paroles des Bob Marley, on n'en parlera même pas. Puisque on est en plein dedans. Il y a un terme qui revient souvent dans le reggae, c'est Zion, Sion. Alors pour ceux qui ont vu Matrix, Sion, c'est un truc qui vient de la Bible, comme quoi les mecs, ils ont quand même repompé des trucs à la Bible, quoi.
Pour dire, pour jeter mon fil encore une fois, ils ont repompé partout.
Et c'est pour ça qu'on les aime tant. Il y a un mec qui est en train de se faire un pong en direct.
Je peux commencer à Frozen Bubble si les gens ça les intéresse. Je suis navré, j'ai fait un bruit, mais c'était pas volontaire.
Et donc en fait, Sion est la cité promise où tout se passe magnifiquement bien. Avec le ragamuffin, on perd cette dimension liturgique et on retombe dans des trucs plus dope et filles. Arrivent les années 70, on écoute du punk. Et alors le punk, c'est facile, c'est les slogans anarchistes, c'est ni Dieu ni maître, alors Dieu, on l'oublie. Et quand à ce moment-là arrive ça. Merci Clément.
Certes, il arrive ça, mais quelque part, enfin, je le cale un petit peu aussi parce que c'est un live. Donc, tu vois, c'est pas
c'est
si bien simple.
Comme temps, je t'ai fait la main longtemps à l'avance.
Voilà, donc des là cloches, il arrive ça.
On se sent bien. Et ce riff de guitare. Alors, ça, mes amis, c'est AC/DC. AC/DC, C'est, on continue dans le genre, les rockstars sont des rebelles, des méchants, bouh. Parce que ces gars-là, entre autres, je les cite eux, il y en a beaucoup d'autres, on va essayer de faire court, il faudra une émission complète. Pourquoi ? Parce que là, vous entendez Hell's Bells, les cloches de l'enfer. Ça, c'est fait. Highway to Hell, l'autoroute vers l'enfer, et on en met une couche. Et là, on commence à dire, mon Dieu, les rockers sont des méchants. Sur, en fait, la religion... donc continue à avoir une grosse influence dans le rock, notamment avec, avec l'émergence d'un rock très engagé politiquement, où en fait on revoit surgir le bien, le mal, et des choses comme la guerre en Irlande, où U2 commence à expliquer que ben, la religion c'est bien, mais il faudrait pas se taper sur la gueule à cause de ça. On continue dans les années 80, et les années 80 c'est aussi l'émergence du métal. Le truc bien lourd. Là, on continue, on s'enfonce de plus en plus profondément. Et là, c'est la rébellion. On continue la rébellion de la jeunesse du rock. Et là, ce qu'il y a, on va chercher vraiment toute la symbolique de tout l'art gothique pour faire les pochettes d'albums. Les gens qui connaissent un peu les Guns N' Roses et Metallica voient très bien de quoi je veux parler. On va rechercher des crânes, on va rechercher des choses comme ça. Et tout de suite, on amène des démons. Là, ce que vous êtes en train d'écouter, c'est Devil's Dance, la danse du diable. Parce qu'on va chercher vraiment la provocation, les choses lourdes et qui gênent énormément. Et toujours dans le genre, on n'a pas peur, on continue dans la provocation. On a ça aussi. Attention, j'ai peur. Non, j'ai pas peur, c'est pas grave. Donc ça, je n'ai pas peur, c'est du Jeff Buckley, c'est pas celui-là que je m'attendais, c'est pas grave, on va improviser.
Non, je suis désolé, c'est sur ta liste.
Ouais, mais la liste, c'est une petite ligne si tu regardes.
Il y a Jeff Buckley, alléluia.
C'est pas grave, alors en fait, c'est pas grave, on va faire une petite ellipse temporelle, là. On va faire une petite ellipse temporelle, et d'accord, c'est pas grave. Donc on va dire que je me suis gouré, honte à moi.
Qu'est-ce que tu as envie ?
Non, parce que sinon je peux le mettre, tu
vas-y,
vois.
Vas-y, mets la.
C'est la. Mais non, certes. Mais tu veux laquelle ? Tu veux laquelle ? Dis-moi laquelle tu veux.
C'est-à-dire qu'en fait.
Je veux bien te la mettre, mais quelque part, il faut que tu me dises laquelle. Parce qu'il y a du choix, je veux dire.
En comment t'es en train d'essayer de récupérer le coup, lamentablement, là.
Il y en a qui mordent, il y en a qui saignent, il y en a des jaunes, il y en a des rouges. Tu veux laquelle ?
Celle qui fait peur.
C'est laquelle qui me
celle dit qui fait peur, c'est-à-dire que si on continue dans le sens, donc Metallica utilise va chercher l'art gothique, Marilyn Manson continue à jouer à ce jeu-là avec encore plus de provocation. Et on continue, on va chercher du lourd, on va chercher l'esthétique gothique, on aime le diable en fait. Et là, les esthétiques sont de plus en plus évidentes. Jusqu'à présent, on essayait pas être trop provocant, maintenant on s'en fout. Et on fait son commerce là-dessus. C'est toute la force, toute l'intelligence d'un gars comme Marilyn Manson. Mais en contrepartie de ça, bien, tout le monde n'a pas vraiment envie d'être sataniste. Et on entend des gens qui vont chanter, qui vont faire des reprises de Leonard Cohen et qui vont nous chanter des chansons calmes et belles, c'est-à-dire celle-ci. Celle-ci, c'est Jeff Buckley. C'est Alléluia, donc qui est, comme je l'ai dit, une reprise de Leonard Cohen. Et sur l'album de Jeff Buckley, on a beaucoup de références encore bibliques, les anges. De toute façon, c'est le chanteur à la voix d'ange. C'est comme ça qu'on le définit. Et j'ai pas suffisamment de texte pour que vous l'entendiez arriver. Et vous savez que ça, c'est Alléluia.
Donc meublons.
La recette du porc Orloff.
Non, mes frères. Oui, mes frères communion dans la joie intégrale.
Alors sinon. Ça vient de commencer. Sinon, j'ai une très bonne recette de cassoulet de ce midi.
Non, c'est bon,
un
merci.
Un truc bien, quoi.
Et là.
Il préférait le porc Orloff.
Chut, chut, chut. Merci.
Comment qu'elle s'impose. Tu peux pas faire zapper le.
Non, on va passer à la suite.
On passe à la suite.
Parce que ben, dans les années 90, on dira ce qu'on veut, mais les années 90, c'est ça. Et ça, c'est la première chronique que j'ai faite quand je suis arrivée à Culture au Placard. C'est Oasis. Parce qu'Oasis, une fois qu'on a bien parlé, voilà, on est des petits jeunes. Sur la fin d'Oasis, il y a un moment, on a fait des conneries et on cherche la rédemption. Et beaucoup de rockstars vont chercher la rédemption. Cette chanson, ce que Monsieur Gallagher est en train de vous chanter, c'est quel est ce fantôme sans voix qui traverse mes rideaux. Je nage dans une mer. Bref, on va faire très rapide. Il rencontre le diable et le diable lui dit mon grand, tout ce que tu as fait, il y a un prix à payer et tu vas le payer rapidement. Quand tu vas me voir arriver, commence à avoir très peur. Et donc tout d'un coup, on se rend compte que ben, la religion revient, mais revient pas dans le côté liturgique. Elle revient imposer son esthétique. Les anges, les démons, c'est le symbole de la conscience. C'est le symbole de la conscience, mais c'est aussi le symbole de la réflexion et de la science. Ceci, c'est Richard Ashcroft. On continue, c'est magnifique. C'est God in the Number. C'est-à-dire que la science aujourd'hui, eh bien, c'est plutôt Dieu aujourd'hui, c'est la science. On croit plus en la science qu'en la religion. Et c'est de quoi parle cette chanson. Et il y a beaucoup de musiciens qui réfléchissent là-dessus. Ça reste des sons très anglais. Là-dessus, on n'a rien trouvé de mieux. Inspiré de blues, c'est magnifique. C'est quelque chose de tranquille. On a quand même toute une... comme j'ai dit, c'est le rock, quand il est passé donc chez les blancs de confession chrétienne, donc qui ont quand même un minimum une morale judéo-chrétienne, et on va dire tout ça, il y a certaines références qui sont prises, comme celle-ci, qui est le titre « Guess God Think I'm Abel ». Je suppose que Dieu pense que je suis Abel. Référence à Abel et Caïn, je sais pas comment on le prononce.
Caïn,
merci. Et donc Caïn a tué Abel parce que Caïn croyait que Abel était le préféré de Dieu. Et donc là, on retourne dans du Oasis parce que c'est Liam Gallagher qui écrit ça. Et on suppose que, enfin, on suppose, il l'avoue lui-même, que c'est une façon d'exprimer sa relation avec son frère. Et donc en fait, dans les chansons, on commence à voir réapparaître toute cette liturgie biblique pour expliquer ce qu'on vit pour de vrai. Et pour terminer avec quelque chose d'assez récent, sachant que ce groupe a un album en préparation en ce moment, c'est mes petits préférés d'abord de eux aussi, c'est The Servant avec le titre Devil, qui reprend un peu le thème de Gas Panic que vous avez entendu tout à l'heure d'Oasis, c'est-à-dire un jour je me réveille et j'ai des comptes à rendre au diable. Et si tout se passe bien, c'est la chanson que je vous propose d'écouter pour finir cette chronique.
Bon, alors qu'est-ce qui se passe ce matin? C'est la Saint-Martin, on tue le cochon?
Culture en placard, tous les lundis 20h sur Graphite.
C'était donc The Servant avec...
Devils.
Devils, c'est tout?
Devils.
Ok. On enchaîne maintenant avec la chronique Le Foie d'Étienne.
Alors, comme disait Bukowski, buvez plutôt du vin. Alors, autant vous le dire tout de suite, autant vous le répéter annuellement. C'est un petit aparté par rapport au sujet de cette émission, mais c'est un sujet d'actualité. Je déteste le 1er mai. Pas en tant que fête du travail, après tout, c'est un des seuls jours fériés qui n'a pas de relation avec la religion, la guerre ou l'invasion de la Terre par les gens anges démoniaques assoiffés d'âmes à refourguer à leur patron, Satan ou Dieu ou choix.
Franchement, en même temps, si t'avais apprécié le 1er mai, tu vois, ça nous aurait presque étonné, quelque part.
Non mais dans le concept, j'aime bien, tu vois. Ce que je ne supporte pas, c'est le défilé à gros renfort de coups de klaxon, pourtant interdit par la réglementation en vigueur en ville, de Miss Muguet et de ses poufs dans les quartiers résidentiels compiénois.
Alors, excuse-moi, de la reine du Muguet. De sa majesté, la reine du Muguet.
Ouais, je suis désolé, enfin, je me suis gouré.
Qui va d'ailleurs faire l'ouverture de la foire du vin et du fromage, si c'est pas la classe.
Qui représente le rayon de soleil de Compiègne.
Concernant le petit discours d'hier, puisqu'on y est, c'est-à-dire que je ne sais pas qui est la personne qui a présenté, mais dire que donc la reine du Muguet est à l'image de Compiègne, moi, donc je veux bien, mais un jour de pluie, c'est pas très gentil, quoi.
Ouais, enfin même.
En même temps, une reine qui roule dans une voiture française décapotable, enfin même pas de luxe, quoi, avec la grosse publicité écrite sur les portières, enfin ça fait pas très reine d'Angleterre, quoi. Bon, non mais franchement, je peux pas supporter une telle atteinte au bon goût. Imaginez la scène. Vous êtes en train de fêter le travail. En calculant un filtre de Kalman sur les cours de la bourse des deux derniers mois, lorsque vous entendez des klaxons aussi harmonieux qu'un pet de Godzilla pendant l'adagio d'Albinoni. Alors, nécessairement, vous êtes déconcentré, quoi. Alors, pour calculer la matrice de covariance du bruit de commande estimé nécessaire pour passer de XT à XT plus 1, il faut que je calcule la différence entre la mesure commandée et la mesure réelle, y compris les bruits de POUETTE! Y compris les bruits de voitures neuves issues du concessionnaire le plus proche de mon domicile. REPOUETTE! Ta gueule, la bimbo! Fais chier ainsi les gens, c'est dégueulasse. tout le monde à Compiègne sait où on peut la voir, la candidate Miss France. Pas besoin de nous les gonfler avec un passage tambour battant. Pire encore, à Compiègne, il y a le concert du 1er mai et la Caroline va me taper. Concert qui a lieu le 30 avril. Mais je m'égare et pas seulement SNCF. J'y vais plus. Je n'y vais plus et ce pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ont viré le deuxième concert qui était toujours nettement plus intéressant que la tête d'affiche. Je pense notamment au grand orchestre du Splendide. Ça, ça, du démon. Et la seconde, je colle au sujet, tiens. Et la seconde, c'est que maintenant, on est fouillé à l'entrée du concert. Eh, c'est bon, je vais voir un concert, pas visiter le QG de l'armée de terre.
Mais non, mais c'est marrant, les gens, c'est un lieu d'amour, tu vois, les gens, tu arrives, ils te font des câlins. Moi, je trouve ça sympa.
Bah, je suis désolé, je supporte pas. La seule fois que j'ai été fouillé, les vigiles n'ont même pas trouvé mon couteau suisse. Pourtant fort apparent, puisqu'il était dans un étui au beau milieu de ma ceinture. J'ai dû leur cafeter et à la fin, ils voulaient plus me le rendre. Pourtant, j'y tiens, j'ai fait 5 ans d'études pour l'obtenir. C'était mon cadeau pour mon diplôme d'ingénieur. Bon, pardon. Alors, pour les anges, les démons et compagnie, que dire qui n'est jamais été dit?
Ben, c'est simple, faisons le bilan des courses, quoi. Pas de zigounette pour les gentils. Cornes, jambes plus poilues que celles du chef pour les méchants. Ainsi qu'une certaine aversion pour l'eau.
Ce en quoi je les rejoins, l'eau pure c'est très mauvais, même pour se laver. Moi pour me laver, je la mélange avec du savon. Par contre, niveau sexualité, je suis plutôt angélique. Et ce n'est pas un problème de physiologie. C'est un problème de vin de messe. Car comme le dit le proverbe, cuité à minuit, très mauvais au lit. Bon, les gentils et les méchants se foutent sur la gueule en passant par nous, pauvres humains. Comme si on n'était pas capable de se massacrer tout seul. C'est franchement nous sous-estimer. C'est bon, depuis 10 000 ans de civilisation, on a acquis la majorité. On est capable de se débrouiller sans papa-maman. Foutez-nous la paix. Allez vous massacrer, sur les marches de l'enfer, ou au paradis. Allez faire chier Saint-Pierre 5 minutes, quoi. Ah, sordide Dieu, tu ne méritais pas, Lucifer.
Je pense qu'on pourrait éviter de laisser des blancs de 10 secondes comme
ouais,
ça.
Ouais, non, mais je cherchais le jeu de mots avec Lucifer et visiblement il n'y en a pas.
Tu cherchais à faire un enchaînement foireux avec Lucifer et finalement tu t'es dit non.
Ouais, mais Lucie fait quoi? Enfin, ce genre de choses.
Oui, et...
Lucifer,
oh là...
c'est notre affaire.
Voilà.
Et ça ressemble à un slogan d'une marque de chaussures.
Ce genre de truc tout à fait débile. Vous savez très bien que Cuplan n'est pas une émission débile, donc on ne fait pas les transitions débiles.
Ouais, on fait juste des transitions foireuses, qui font que Cuplan est une émission foireuse, donc quelque part, je suis pas sûr qu'on y gagne. Hein.
L'équipe... Mais j'aperçois, non.
Voilà, l'équipe de Balade Electro vient d'arriver dans les locaux. Vous faites pas la fin du travail,
une émission
hein.
Tranquille,
comme d'hab, avec pas mal de nouveautés, et puis... début de mois tranquille.
Ouais, tranquille.
En fait, Balade Électronique est une émission qui va crescendo au fur et à mesure du mois. C'est-à-dire que le premier du mois, bon, faut pas pousser, quoi, on se repose. Puis alors le 30, il te bourrine les oreilles, c'est un truc bien porcin.
C'est comme
réaction,
les livres, hein.
Ah ouais.
La couverture est assez cool, c'est la quatrième de couve qui est intéressante. Là, c'est pareil. Balade Électro, la première semaine, bon, c'est tranquille. C'est la dernière semaine qui déménage, la quatrième.
Bon, bien. On va peut-être enchaîner parce que là je sens que ça va partir en sucette en prévision jeu que sur la gauche. Là ils ont déjà commencé à discuter chiffon, donc là on va peut-être enchaîner.
C'est normal, la gauche discute toujours chiffon.
Oh, ça suffit, pas de polémique.
Pas de politique, non. Alors, je sais pas ce qu'on fait.
On va conclure. T'as fait une faute d'accord.
Conclutons gaiement.
Tu veux que je conclue comment?
Je sais pas, comment est-ce qu'on peut conclure une émission de la sorte?
Faites attention, ils sont partout.
Ouais, ils sont partout. Évitez de vous cocher trop tard, ça fait des émissions un petit peu tranquilles.
Non, ce qu'il faut dire, c'est que je n'irai pas au paradis.
Non, on va pas dire ça.
Non, je pense que non. Enfin, ça peut se négocier, qu'on va dire.
On va remercier les gens de nous avoir écoutés d'une part, parce qu'il y avait quand même Retour à le futur 3.
Ah, on a dû avoir mal ce soir. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas d'appel.
Mais comme depuis 3 semaines, on a mal parce qu'ils ont passé la trilogie Retour vers le futur. Donc, c'est normal.
Donc, d'où le proverbe du jour. Quand la trilogie Retour vers le futur passe à la télé, Culture en placard est peu écoutée. Et t'admireras quand même que j'ai presque fait une rime alors qu'il est complètement à l'arrache, le proverbe du jour. Hein.
Complètement, effectivement.
T'as surtout fait une magnifique faute de liaison.
Bah non, j'ai pas fait de faute de liaison.
La
peu écoutée.
Bah oui, bah y a un Z à s'écouter.
La semaine prochaine. Bonne question. Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine?
Rien.
C'est ma grand-mère, encore une fois.
Tout le monde a proposé rien, donc tu vois, on va... Bah là, on va faire l'émission à ton cousin Germain au second degré, parce que là, on commence à épuiser le stock. Hein.
Ouais, je sais pas, on verra bien ce qu'on fera. Voilà, donc c'était l'émission spéciale Angers Démons. On rappelle que... Que quoi?
Qu'on se retrouve la semaine prochaine.
Ouais, non, je voulais parler des livres, en fait.
Que De bons présages de Terry Pratchett se trouvent dans la collection J'ai lu, et c'est un livre qu'il faut lire.
Voilà. Avec Neil Gaiman, tout à fait. Les deux auteurs sont à lire de toute manière. Que Caroline nous a présenté des bonnes musiques.
Des groupes qu'il est bien, faites-vous votre playlist.
Voilà. Que Max nous a présenté deux livres, deux BD, et moi j'ai pourri un auteur. Et que Clément n'a rien présenté, mais c'est pas grave.
Et que vous pouvez retrouver toutes ces informations avec toutes les références au cas où vous les auriez ratées sur le blog de Culture en Placard. Et oui, je fais mon lourdeau, j'en rajoute une couche, j'aplatis ma collection d'enclumes sur cette émission. Et donc, sur le blog de Culture en Placard, www.a2sos.utc.fr/culpla.
Voilà, personne n'a appelé, c'est pas grave. La semaine prochaine, donc émission à ma grand-mère à 8h sur le Graphite 94.9 avec l'équipe au grand complet et en pleine forme. On vous laisse avec Balade électronique, avec Rémi et Aude pour une émission tranquille. Et on se quitte avec ACDC et Hell's Bells. À la semaine prochaine.
Au revoir.
Blanc total.
Non, mais c'est parce que c'est un live. Donc en fait, il y a les applaudissements au début, ils sont pas très forts.
D'accord.
Je suis désolé.
Mais là, je suis à fond. Donc on applaudit.
Ah bah oui, voilà. Déjà, tu les veux.